France Culture.
Éric Fotorino, bonjour.
Bonjour Caroline.
C'est le quatrième temps de Nos Avoix Nues qui en compte cinq, je le rappelle. On parlait dans l'épisode précédent de votre aventure au journal Le Monde. On l'a fait en réduit,
oui.
Parce qu'on est bien obligé. Et on va continuer aujourd'hui votre aventure journalistique, en tous les cas comme patron de presse, parce qu'entre journaliste et directeur, finalement, vous avez choisi de rester patron de presse. Mais surtout, vous nous disiez hier que vous n'aimiez pas la routine, que vous aimiez créer. Et de fait, vous êtes un créateur de journaux. Des revues également, mais en 2014, le 1,
oui.
Qui existe toujours, 11 ans plus tard, au moment où nous enregistrons ces Avoix Nues, America en 2016, Zadig en 2019 et Légende en 2020. Alors comme je ne l'ai pas encore dit, nous sommes dans les locaux
oui.
De ces journaux. Nous sommes dans les locaux du 1, donc il y a la ruche là, à l'extérieur de votre bureau, ça bouge
oui,
beaucoup, il y a un petit peu de monde qui travaille. Mais j'aimerais bien vous proposer d'aller dans l'entrée, si vous voulez bien on se lève et on va voir l'entrée.
On y va.
Alors on y va. On est dans l'entrée, je ne sais pas comment vous l'appelez.
C'est l'entrée du 1.
On est entouré. De journaux, de livres, il y a beaucoup de 1 devant nous sur des présentoirs, il y a des légendes, alors le dernier légende en date, hein, c'est Simone de Beauvoir,
oui.
mais je vois aussi derrière...
Johnny Hallyday.
Johnny
oui,
Hallyday.
C'est très éclectique, hein, nos
légendes. Donc il y a les légendes, il y a des affiches derrière nous, des livres, parce
oui.
que évidemment...
Des coéditions que nous faisons sur les contenus du 1. J'ai toujours considéré que ce que nous faisions était à la lisière entre le journalisme et l'édition et la littérature. Et donc des textes qui vivent une semaine ou 15 jours en kiosque, c'est dommage de ne pas leur donner une vie supplémentaire. Et donc pour qu'ils vivent, ça devient des livres.
On voit la collection de Zadig,
oui.
Avec des couleurs, jaune, orange, bleu, vert. Et puis le 1, petit, comment ça s'appelle ça ?
Alors ça s'appelle XS parce qu'il est petit, il a quasiment un format de livre de poche, c'est le 1 des libraires. Et comme on en a un XL qui est très grand, comme une affiche, comme vous voyez là, l'affiche de Dune au mur. En fait, y a toujours cette idée pour nous d'inscrire du durable dans un monde éphémère. Et donc, comme vous le voyez, c'est un monde de papier. Là-bas, vous avez une grande affiche sur les oiseaux de France, par exemple. Elle fait rêver et en même temps, elle nous apprend beaucoup de choses. Et je crois que c'était ça, la démarche du 1 au départ, il y a donc 11 ans, c'est réunir au même endroit du sensible, c'est-à-dire le regard des écrivains, des poètes, il y a une poésie chaque semaine dans le 1, des artistes, et puis le regard savant des chercheurs, des experts dans différents domaines. Et évidemment, la médiation est faite par des journalistes, nous sommes des journalistes. Et c'est ça qui donne un objet. Et ce qui est important, je dis souvent, je fais pas des journaux, je fais des objets de presse. Et avec mon équipe, on est très attachés à faire quelque chose de beau. Et les légendes que vous voyez, effectivement, Simone de Beauvoir, mais il y a aussi Mandela, il y a aussi Simone Veil, c'est des objets avec des formats différents de ceux un peu trop petits qu'on voit maintenant. Aujourd'hui, on miniaturise et on dématérialise. Bien, moi, je veux des idées qui prennent de la place et des images qui prennent de la place.
Bon, alors maintenant qu'on a une présentation générale, on va aller vers le particulier. Vous allez nous raconter cette aventure ou ces aventures. On retourne dans votre bureau.
Allez, on y va.
Donc, Éric Fotorino, en 2011, vous quittez Le Monde. Le premier 1 apparaît en 2014.
Avril 2014.
Vous ne traînez pas. Donc, vous êtes parti avec votre complice du Monde, Laurent Greilshammer, avec qui vous fondez cet hebdomadaire d'idées, comme ça que vous le présentez. Se lancer dans ce que vous appelez donc les objets de presse, des journaux, des revues plus pragmatiques. C'était quoi? La volonté de tourner la page, mais pas la déchirer, surtout?
Oui, c'est-à-dire que, là encore, les choses se font pas immédiatement dans mon esprit. J'écris, comme vous l'avez dit hier, ce livre, ce gros livre qui s'appelle Le Tour du Monde, qui commence...
Parle en 2012, hein.
Exactement, qui commence comme un roman d'aventure et qui finit comme un roman noir. Ça me donne l'occasion de faire beaucoup de rencontres en France, à l'étranger, sur la presse, sur le monde, sur le journalisme. Et, il ne se passe pas une rencontre sans que quelqu'un me demande à un moment donné « Mais pour vous, qu'est-ce que ce serait un journal aujourd'hui ?» Et j'avoue que je me suis un peu pris au jeu en me disant, oui, c'est vrai, au fond, moi, j'ai fait une nouvelle formule du monde en 2005, mais le temps a passé, déjà presque une décennie, et ça allait tellement vite, Internet, les réseaux sociaux, etc. Et je me suis dit, au fond, peut-être il y a encore quelque chose à faire. Et pour ça, il faut que je réfléchisse, et avec mon complice Laurent, évidemment, Grêle Zamer, on a commencé à se voir régulièrement dans un café en face du Luxembourg. On mettait toutes nos idées sur des papiers en crayonné, etc. On avait pris cette habitude à chaque fois qu'on finissait cette heure et demie, deux heures de brainstorming entre nous, de jeter, de déchirer tout et de jeter dans la première poubelle. Ensuite, on est devenu trois, puisqu'il y a eu Nathalie Thérier qui est venue pour donner la direction artistique, donc donner à quoi ça pourrait ressembler, cet objet. Et au fur et à mesure, on a avancé dans l'idée que oui, il y avait sûrement quelque chose à inventer, à condition de penser contre soi-même, c'est-à-dire de faire à peu près l'exact, de casser tous les codes, et de faire à peu près l'exact opposé de ce à quoi on avait été biberonné pendant Laurent 35 ans au monde et moi 25 ans.
C'est pour ça aussi que le format est si particulier, c'est-à-dire que c'est une seule feuille pliée,
oui.
qu'il faut vraiment déplier, qui se retrouve à être assez grande,
oui.
et un seul thème
oui, c'est
par
ça.
Semaine.
C'est-à-dire qu'en fait, on s'est donné quelques règles qui nous ont paru, d'ailleurs qui étaient des leçons tirées du monde. Au monde, les lecteurs se désabonnaient. On cherchait pourquoi. Moi, je demandais pourquoi les gens se désabonnent. C'était ce qu'on a vite appelé l'effet de pile. C'est-à-dire que les gens étaient abonnés et puis la pile de journaux montait sur la table basse ou près du lit ou n'importe où. Et puis, ils entretenaient vis-à-vis de leur journal mauvaise conscience et frustration. Ah, ça, je voulais lire, je l'ai pas lu. Et tout ça finissait à la benne le week-end ou avant les vacances. Donc, on s'est dit, il faut qu'on fasse un journal bref, qu'on puisse lire du début jusqu'à la fin. Et parmi les collaborateurs du 1, il y a Robert Solé, qui est venu du Monde. Et Robert, un jour, me dit, mais tu sais, moi, quand j'étais jeune, après l'Égypte, je suis allé au Liban, et au Liban, il y avait l'Orient le jour, et c'était un journal qu'on lisait du début jusqu'à la fin. Et ça, j'ai gardé ça en tête. Que le temps ne soit pas trop contraint, qu'il y ait un début, un milieu, une fin, et que ce soit accessible et qu'on puisse se dire je vais pas rentrer dans un trop grand tunnel de lecture. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était cesser l'entre-soi. Toujours les mêmes qui parlent aux mêmes. Et donc, c'est à partir de là qu'on a dit notre journal, ça pourrait être plusieurs regards sur un sujet. Donc, on est allé chercher des disciplines différentes, des auteurs différents, des auteurs et autrices, en faisant attention non pas à la parité stricte, mais à bien mélanger. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, aller chercher du sensible. Quand je publie, fais un numéro sur les migrants, que je publie Laurent Godet, que je publie un poème de Marguerite Yourcenar des années 30 qui s'appelle Lampedusa, comme si j'avais moi-même envoyé Marguerite Yourcenar à Lampedusa, ça veut dire que les grands textes sont toujours d'actualité. Donc redonner de la mémoire là où on croit que ce qui est nouveau, c'est ce qu'on a oublié. Ça, c'était important. Et puis troisièmement, c'était faire un objet. Un objet qui ne ressemble à rien d'autre, non pas par, comme un gadget, mais parce que la forme est le fond. On dit souvent la forme, c'est le fond qui remonte à la surface. Eh bien que cette forme, elle devait être rendre justice au fond très varié qu'on allait donner. Ce qui fait qu'un peu par hasard, et vous savez bien que dans la création, il n'y a jamais de hasard, c'est que on est allé chercher un graphiste qui n'avait jamais fait de journaux. Qui était un architecte, Antoine Ricardou, qui a cette société qui s'appelle Bipôle, qui d'ailleurs est dans notre rue, là, rue Saint-Lazare à Paris, dans le 9e. Et à un moment donné, il voulait nous faire écouter la musique du papier. Vous imaginez ça? Quelqu'un qui vous dit, vous voulez qu'il fasse quel bruit le papier, votre journal quand vous allez l'ouvrir? Je dis, ah bon, il y a des sons mats, il y a des sons plus aigus, plus cristallins, etc. Je dis, ah oui, c'est incroyable ce que tu me racontes. Donc, il prend dans une pile de papier un shooting qu'il avait fait, parce qu'il a aussi une activité aux États-Unis, et il ne l'ouvre pas, il le déplie devant nous. C'était un format un peu tabloïd, et tout d'un coup, ça devient une grande aile d'oiseau. Et là, on est tous les trois, Laurent Grêle, sa mère, Nathalie Thérier et moi, et on lui dit, c'est ça qu'on veut. Il dit, quoi, vous voulez ce papier? Non, 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 ce que tu as fait là, comment tu as fait? Parce que évidemment. C'est Pasteur qui disait « rien ne naît de rien ou ce rien est déjà quelque chose » et que la découverte se donne toujours aux esprits préparés. Ça faisait 9 mois qu'on cherchait à quoi allait ressembler ce fichu journal. Et tout d'un, on disait, oui, mais il faudrait des cartes, et puis il faudrait des œuvres d'art, mais il faudrait des poèmes. Donc un poème, c'est plutôt petit, une carte, c'est plutôt grand, alors on va faire comment? On n'avait pas la solution. Et tout d'un coup, ce prospectus, qui devient géant. Et alors c'était un peu grand, donc ça ne tenait pas en kiosque, ça n'aurait pas eu une tenue. Et donc je le demande à Antoine Ricardou s'il veut bien, c'était un vendredi, de me le laisser pendant le week-end, parce que je me dis, il y a encore quelque chose à faire. Et pendant le week-end, je fais une chose toute simple, je fais un autre pli, et je le replie encore. Et là, ça devient le format que l'on connaît depuis 11 ans, du 1, avec plus de 500 numéros déjà parus.
Mais ça veut dire, Éric Fautorino, qu'à l'époque, on est en 2014, vous faites le pari de l'imprimer.
Bien sûr.
À une époque où l'heure du numérique est venue,
oui.
Où l'information est fragmentée et où beaucoup, beaucoup misent sur la fin du papier.
Complètement. Il y a même des courbes qui viennent des États-Unis pour vous dire l'année, c'était même 2017. En 2017, il n'y aurait plus de journaux écrits imprimés. Oui, parce que moi, je pense que le support ne va pas sans le concept. C'est-à-dire que si sur le support, vous imprimez ce que tout le monde imprime, c'est certain que votre journal, il n'a aucune chance d'exister. Mais si ce support, il vous permet de déployer un concept nouveau, et là, en l'occurrence, c'était ça. Je me souviens très bien, même mes amis me disaient « Éric, t'es fou ça revient à faire un hors-série toutes les semaines, ce que tu veux faire. » Ben, je dis, ben, ouais, c'est exactement ça. C'est un hors-série chaque semaine, puisque d'une semaine à l'autre, on sait pas quel thème on va choisir. Alors, qu'est-ce qu'on peut en avoir l'idée quand l'actualité est vraiment des guerres?
C'est quand même lié à l'actualité.
Oui. Voilà.
Sur le temps long.
Alors, comme vous dites, lié à l'actualité, mais ce n'est pas nécessairement l'actualité. Et donc, quand on fait un numéro sur l'amitié, on peut pas dire que c'est plus d'actualité une semaine qu'une autre. Bon. Donc, à partir de là, on a vraiment considéré que l'époque était tellement fragmentée qu'il fallait proposer, dans le savoir et dans les informations qui venaient de tous les côtés, il fallait proposer une lecture ralentie et non pas exhaustive, mais en tout cas en profondeur d'un sujet, un seul sujet. Et en fait, ce qui portera le 1, à la limite, c'est pas tant le sujet qu'on a choisi, ce sera le concept, c'est-à-dire ce journal prend un sujet, mais il va chercher des artistes, des chercheurs, etc.
Un seul actionnaire en 2014,
oui.
Aussi, d'un point de vue économique.
Puisque... Oui, absolument. Il s'appelle Henri Herman et c'est un homme qui, à l'époque, a 89 ans et qui a eu un passé dans la presse. Il a été propriétaire du Matin de Paris. Et il a accompagné ce qu'on appelle la deuxième gauche. Et lui avait lu Mon Tour du Monde. Il avait voulu me rencontrer. Il m'avait dit une chose. Alors, il voulait que je le tutoie. Il m'avait dit un mois pour toi, c'est un an pour moi. Donc, il était pressé. Et au mois de décembre 2013, j'arrive avec une feuille pliée comme est le 1, mais sans rien d'imprimé, rien. Et je lui dis, voilà ton journal. Je lui tends. C'était un homme avec beaucoup de prestance, avec un regard bleu froid, pas commode et en même temps assez audacieux. Et il regarde, il commence à ouvrir, et puis il veut ouvrir l'autre page, il voit que ça résiste, et il voit qu'il y a quelque chose, donc il tourne. Et puis, il voit que ça devient un format tabloïd depuis le A4. Et puis après, il voit que ça devient une grande feuille. Et là, il me regarde, il plante ses yeux dans les miens. Il me dit, on n'a jamais vu ça. Et j'ai dit non. Et il me dit, on y va. Et c'est né comme ça, le 1 est né comme ça.
10 ans plus tard, c'est un succès?
Alors,
11 ans plus tard, même, on est en 2025 au moment où nous enregistrons.
Il faut d'abord être humble, parce que un succès, qu'est-ce que ça veut dire? Nous sommes là. Nous gagnons un peu d'argent. Nous n'en perdons pas. Nous n'avons pas de publicité. Nous sommes indépendants. Nous avons un actionnaire minoritaire qui n'est plus la famille d'Henri Herman, qui après la disparition d'Henri Herman, qui est François Pinault, qui nous laisse travailler avec beaucoup de respect, beaucoup d'humanité, et il est devenu un actionnaire à 40%. Et nous pouvons nous développer. Donc oui, c'est un succès au sens où, je crois, on a construit une communauté de lecteurs d'environ 35 000 acheteurs par semaine. Ça veut dire 100 000 lecteurs, en gros, hein, si vous multipliez beaucoup d'écoles, beaucoup de lycées, beaucoup de lieux de savoir, beaucoup d'étudiants qui préparent leurs examens avec, mais pas seulement. Et c'est un journal aussi, le plus jeune abonné à 13 ans, Et le plus âgé, je peux vous le dire, c'est Edgar Morin, puisque il y a quelques semaines, il m'a écrit, puisqu'il avait déménagé, et il m'a dit, Eric, je ne reçois plus mon 1, est-ce que vous pouvez me le renvoyer? Je dis, bien sûr, Edgar. Donc voilà, ce serait pour être un slogan de 13 à 103 ans.
Bon, vous ne vous êtes pas contenté de créer un nouveau journal qui ne s'était jamais vu, Eric Fotorello, puisque vous n'aimez pas la routine. Tous les deux ans, à peu près, vous en avez créé d'autres. Donc, en 2016, avec François Bunel, vous avez créé le magazine trimestriel America. Alors, America, ça se donnait pour objectif de donner plusieurs regards, là encore, mais sur un pays, pas sur un sujet, sur les États-Unis, dans un temps bien défini, qui était la première présidence de Donald Trump. Vous n'avez pas eu envie de réitérer en 2024 ?
Alors, bien sûr qu'on s'est posé la question avec François Bunel. Simplement, d'abord, on l'avait déjà fait. Et on l'avait bien fait. Ça s'était très bien passé. Ça a été un grand succès. Je dois dire largement grâce à François Bunel, dans la mesure où il avait cette capacité à cristalliser, à fidéliser autour de lui beaucoup d'écrivains américains. Et nous, on avait cette capacité, ce savoir-faire pour faire tomber un journal, si j'ose dire, qu'on a inventé en quelques minutes sur un coin de bureau, ici, là où vous êtes, vraiment quelques minutes. Et c'était une idée très simple, c'est raconter l'Amérique de Trump, qu'on n'avait pas vu venir à l'époque, par essentiellement les écrivains. C'était la foi dans la littérature qu'on partage avec François. Et à partir de là, le refaire, alors que beaucoup de ces écrivains, ou bien ont disparu, ou comme Philip Roth, ou comme Toni Morrison, qui a été la première, qui était la marraine d'America, il aurait fallu faire tout autre chose. Et on n'avait pas l'énergie de faire tout autre chose. Donc on s'est dit, voilà, on l'a fait une fois, c'est bien.
En mars 2019, c'est la France vers laquelle vous avez tourné vos regards avec la revue, format revue, hein, America, format revue, Zadig, format revue trimestriel, 200 pages quand même, consacré à la France d'aujourd'hui. Est-ce que c'était un peu sur le modèle de 21, vous diriez, des grands et longs reportages, primo-reportages déjà?
C'était plutôt le modèle d'America. C'est un enfant d'America, d'une certaine manière, Zadig. Avec l'idée, parce que des lecteurs qui lisaient America, français, nous disaient, c'est formidable, America, mais pourquoi vous ne parlez pas de la France? Et je dois dire que quand on a lancé Zadig, ça a été assez spectaculaire, puisqu'on est arrivé, ça s'appelait Réparer la France, et on est arrivé à l'embryon du mouvement des Gilets jaunes. Donc il y avait une sorte de télescopage entre quelque chose qui n'était pas d'actualité et l'actualité, avec un entretien incroyable avec Mona Ouzouf, à qui j'avais demandé si on pouvait comparer les sans-culottes, dont elle était la grande spécialiste de la Révolution, et les Gilets jaunes. Et elle m'avait dit une chose, laissez-moi réfléchir, revenez me voir dans 3 semaines. Eh bien, on a pu faire ça. Donc c'est un entretien que j'ai fait en 2 fois, à 3 semaines d'écart, et quand je suis revenu la voir chez elle, elle m'a dit, voilà, j'ai réfléchi, les sans-culottes, c'était l'espérance, ils voulaient détruire toutes les rues de Paris et les reconstruire pour que le soleil rentre dans chaque rue. Elle m'a dit, les gilets jaunes, c'est une révolution sans espérance. Et donc, vous voyez, quand vous recueillez des propos comme cela, d'abord, vous dites merci, vous dites c'est extraordinaire ce métier. Mais d'avoir le temps long, ça vous permet, et ça permet à votre interlocutrice, en l'occurrence Mona Ouzouf, d'avoir réfléchi et de pas vous dire quelque chose un peu à l'emporte-pièce. Et donc Zadig, pendant 5 ans et demi, on l'a arrêté, j'allais dire, en beauté, en finissant avec nos amis d'Arte sur un numéro sur l'Europe. Pendant 5 ans et demi, on a vraiment labouré la France dans tous les sens, avec aussi des thèmes, les religions, le travail, changer de vie, etc. Et d'une certaine manière, je crois que j'ai introduit dans ce paysage des médias français, l'idée qu'un média peut être éphémère. C'est-à-dire que, bon, voilà, America, on l'a fait 4 ans, Zadig, on l'a fait 5 ans et demi. Le 1, pour le moment, on n'éprouve pas le besoin de faire autre chose que le 1 ou de l'arrêter. Mais pour moi, il n'y a pas de religion pour dire il faut absolument qu'un journal continue. Non, s'il n'est plus en phase avec l'époque, il faut l'arrêter. Mais l'arrêter pas pour l'arrêter, l'arrêter pour créer autre chose.
Pour créer, par exemple, en juin 2020, Légende, le dernier né, Eric Fotorello. Alors là, encore une fois, il faut dire un mot du format, parce que c'est un format géant.
Oui.
27 cm de largeur, 40 cm de hauteur.
Oui.
Inspiré d'un magazine sportif américain.
Oui, justement, toujours notre ami Antoine Ricardou, qui a créé le 1, la maquette, le principe de maquette du 1, m'avait montré une fois un magazine qui s'appelle Victory, qui est un magazine de sport. Il y a le football américain, il y a la boxe, etc. Et quand j'avais vu ça, ça m'avait plu, parce que c'était surtout des photos. Et je me disais, il faudrait que nous, on ait des journaux qui se tiennent par la main, d'une certaine manière. Le 1, c'est assez intellectuel. Zadig, c'était beaucoup de reportages, d'enquêtes, d'entretiens. Eh bien, l'idée d'incarner. Et j'avais eu la chance de pouvoir faire des entretiens extraordinaires avec Michel Serres, très peu de temps avant sa mort, et aussi avec Boris Cyrulnik pour Zadig, et l'un et l'autre, pratiquement avec les mêmes mots, m'avaient dit, voyez, on est dans une société qui ne fait que dénigrer, on ne sait plus admirer. Ça, c'est ce que m'avait dit Michel Serres. Et Boris Cyrulnik m'avait dit, pour se construire, il faut savoir admirer. Et donc ces deux, il m'avait dit ça à 2 mois d'écart. Et donc tout ça avait fait son chemin dans mon esprit. Et je me suis dit, à un moment donné, n'allons pas sur les idées, n'allons pas sur le terrain. Allons voir des visages, des gens, qu'est-ce qu'ils pensent, c'est quoi leur parcours. Non pas la vie des saints, parce qu'une légende, ça ne veut pas dire qu'elle a fait tout bien. Au contraire, un parcours, c'est chaotique, il y a une part d'ombre, il y a une part... Mais, et donc voilà, on a commencé et on s'est lancé avec Zinedine Zidane.
Vous n'êtes pas tout seul, évidemment, Eric Fonotorino, dans toutes ces aventures.
Bien sûr que
vous
non,
avez
on peut
une
pas
équipe.
Être tout seul.
Une seule petite question par rapport à ces figures, à ces monographies que sont légendes. Qui décide?
Alors, moi, je suis un dictateur éclairé qui aime d'abord l'éclairage. Donc, j'écoute toute l'équipe. Ils me suggèrent, je leur suggère. Et on a, à l'heure qu'il est dans un autre bureau, ils doivent peut-être s'empailler pour savoir quel est le prochain. Mais disons que moi, je donne les impulsions fondamentales. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai décidé il y a quelques semaines qu'il fallait, à côté des légendes, j'allais dire établies, quand vous faites Simone de Beauvoir, tout le monde connaît Simone de Beauvoir, que c'est une légende, il n'y a pas de doute. On pourra faire Marilyn Monroe. La liste est très longue de toutes les légendes du XXe siècle. Mais là, j'ai demandé, je leur ai dit, écoutez, à l'équipe, je pense qu'il faut qu'on montre autre chose. Donc, nous allons faire une légende sur Zelensky. Une légende Zelensky. Et là, on a discuté, mais je n'ai pas entendu d'argument qui me faisait reculer. Voilà.
Alors, Eric Fonotorino, je ne résiste pas à l'envie de vous poser une question sur votre temps, parce que vous êtes un patron de presse aujourd'hui, créateur de journaux, mais patron de presse de fait, puisque vous dirigez une équipe, il y a plusieurs journaux, des revues qui sortent régulièrement. Et vous racontez dans votre tour du monde que ça n'a pas toujours été évident, quand vous étiez au Monde, d'être à la fois journaliste et écrivain. Et pas seulement en termes de temps, pas seulement parce que vous aviez à votre charge un quotidien, aussi parce que c'est pas évident de partager les choses, il n'y a peut-être pas tant de liens que ça. Peut-être certains de vos reportages vous ont-ils inspiré des textes de fiction, Cœur d'Afrique, par exemple, Nord-Est, par exemple.
C'est les deux essentiellement,
Mohican,
et Mohican 3, voilà,
oui, voilà,
tout à fait.
Mais sinon, entre l'écriture journalistique et l'écriture littéraire, et c'est ça qui va être ma question, il n'y a pas toujours de lien évident. Mais d'abord, comment partagez-vous, comment répartissez-vous votre temps entre aujourd'hui l'écriture que vous continuez de pratiquer et votre travail de directeur de journaux?
Pour moi, si vous voulez, la question du comment ne se pose pas. La seule question qui vaille, à mes yeux, c'est pourquoi. Pourquoi je fais ça?
Vous êtes bien le premier à dire ça. En général, on n'aime pas qu'on pose la question pourquoi, on veut savoir comment.
Voilà. Et moi, c'est pourquoi. Pourquoi j'ai besoin, d'un côté, d'être à l'origine de ces journaux, de les penser avec mon équipe. Encore une fois, on fait jamais un bon journal tout seul, surtout pas. Et j'aime ce travail d'équipe. Et puis, en même temps, il y a toujours cette petite musique qu'il a, qui me poursuit, qu'on peut appeler littérature. Et je crois qu'il y a vraiment, pour moi, un partage des encres, comme il y a le partage des eaux. C'est-à-dire qu'il y a l'encre du journaliste. Moi, j'écris toujours mes articles à l'ordinateur. Ça peut prendre des heures, ça peut... Et puis, j'écris toujours à la main mes premiers jets de roman. C'est toujours la relation entre ma main, mon souffle, mon cœur. Qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'ai mal aux dents? Est-ce que je suis en forme? Est-ce que j'ai bien dormi? L'écriture, voilà. L'écriture qui me possède. Et celle-là, il n'y a pas de comment, je veux dire par là. Il y aura toujours le moment. Vous savez, c'est comme l'eau. Vous jetez de l'eau quelque part, même si vous avez mis des barrages, elle va toujours passer. Ben pour moi, l'écriture, elle passe. L'écriture littéraire, l'écriture de roman. Un jour, une jeune fille, dans le cadre du concours des lycéens, m'a dit « Est-ce que vous aimez écrire ?» Et j'étais un peu surpris par sa question. Je lui ai répondu « Est-ce que tu aimes respirer ?» Et elle a été un peu décontenancée. Et je comprends pourquoi d'ailleurs. Parce que moi, en fait, je suis même pas sûr d'aimer écrire. Mais je sais que si je n'écris pas, quelque chose en moi meurt.
Vous arrêtez de respirer.
Donc pourquoi ? Pourquoi faites-vous ça ? Parce que je veux vivre. Et pour moi, écrire, c'est vivre. Après, je trouverai toujours le temps sur d'autres choses. C'est des arbitrages même, j'ai pas besoin d'un agenda pour arbitrer ça. Je sais les moments. Quelquefois, je vais avoir une heure de train. Et ben, une heure de train, il y a peut-être au bout 15 lignes du prochain roman. Extraordinaire. Faut être patient. Faut attendre. Faut avoir l'instinct du chasseur. Et donc, voilà. Donc, pour moi, le comment, je peux vous dire, oui, ben, le matin, je me lève et puis je vais écrire. C'est même pas ça.
Non, c'est même
je
pas
dors
ça.
Beaucoup. Enfin, jamais assez. Mais je veux dire par là, je suis pas quelqu'un qui va vous dire je me lève à 4h30 du matin, une sorte d'héroïsme de l'écriture. Pas du tout. J'écris quand l'écriture vient, quand elle est là, c'est comme un robinet qui coule. Il faut la prendre. C'est un trésor, l'écriture.
Quand l'écriture vient, j'allais vous demander de quoi naissent vos romans?
De quoi ils naissent? Oui, c'est une bonne question. Quelquefois, c'est un minuscule détail.
C'est une image, c'est un mot, c'est une sensation, c'est autre chose?
Alors, Je vais être concret.
Oui.
J'ai écrit un petit texte qui a été joué d'ailleurs par Jacques Weber pendant plusieurs mois, qui s'appelle « La pêche du jour sur les migrants ». Un soir, j'ai travaillé dans mon bureau à toute autre chose, je vais me coucher. Et trois mots passent dans ma tête, trois mots. Le yéménite plus fin que la bonite. Le yéménite plus fin que la bonite. Vous lavez les dents, vous entendez ça dans votre tête. J'ai rallumé mon bureau, j'étais fatigué, j'ai rallumé mon bureau, j'ai rallumé mon écran bleu. Et me voilà en train d'écrire un dialogue improbable entre un pêcheur de Lampedusa et un client, drôle de pêcheur, drôle de client. Trois mots, vous voyez. Mais il n'y a pas de règle. Quelquefois, un livre, il naît de quelque chose qui vient de tellement loin que je ne sais même plus d'où il vient. Et puis d'autres fois, il est activé par une sorte de petite étincelle. Ces trois mots qui sont venus vont le faire naître. Par exemple, un roman que j'ai écrit il y a longtemps, donc Korsakov, dont on a parlé il y a quelques jours. Korsakov, jusque-là, c'était un texte complètement informe. Je pensais que ce serait un texte maudit que je n'arriverais jamais à terminer. Et puis un jour, on me parle d'une maladie, de perte de mémoire, qui n'est pas Alzheimer, qui s'appelle le syndrome de Korsakov. Je connais pas Rimsky-Korsakov, je connais... Et rien que la tonalité, la sonorité de ce mot fait que j'ai su que j'allais, ce que j'allais écrire. Et tout ce que j'avais écrit, j'avais déjà quasiment 1000 pages d'un truc qu'il ne savait pas. C'était comme, vous savez, ce livre de Robert Musil, quoi, hein, L'homme sans qualité, le truc qu'on ne finit pas. Et là, je l'ai tout réécrit, tout. J'avais trouvé parce que la magie d'un mot, Korsakov.
On continuera dans l'épisode suivant, c'est-à-dire le dernier, Errico Toreno, sur cette fibre littéraire, parce que je vous demanderai dans le dernier épisode qui sera consacré à votre passion pour le vélo, si vous faites un lien entre l'écriture et le cyclisme, ou plus exactement, si vous arrivez à penser à écrire pendant que vous faites du vélo. Ça sera d'ailleurs la première question. Rendez-vous demain, donc.
Je vais réfléchir.
À demain.
À demain.
À suivre l'épisode 5, L'échappée belle. C'était À voix nue avec Eric Fotorino. Réalisation Anne Fleury. Prise de son Olivia Branger. Chargée de programme À voix nue Daphné Abgral. Une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.